Bonjour Tom Thielet.
Bonjour Gérald.
Fondateur de l'entreprise Le Moulin, entreprise de restauration rapide engagée. Expliquez-nous comment s'est né Le Moulin il y a maintenant 18 ans.
C'est né d'une rencontre avec deux frères, Thierry et Martial Perraudin, qui faisaient de la boulangerie biologique artisanale dans le Nord-Isère, dans la région de Crémieux-Morestel. On s'est rencontrés, moi je les ai rencontrés sur un marché de Noël. Je bossais avec mon père en artisanat à l'époque. J'ai eu l'occasion de travailler comme aide-cuisine et plongeur une première saison d'été dans leur auberge paysanne qui était ouverte que en saison sur le site de cet ancien moulin à céréales du 15e siècle qui se trouve vers Morestel, à côté du pont de Briord. Première saison comme aide-cuisine et plongeur, deuxième saison comme responsable de cuisine. Je leur ai partagé une vision du développement qui me semblerait pertinent pour eux à Lyon, pour qu'ils aient un point de vente fixe de leur pain en ville. À l'époque, ils distribuaient sur les marchés lyonnais et par l'intermédiaire des magasins bio. Il faut imaginer ça, il y a une vingtaine d'années, des boulangers bio, il y en avait très peu. C'est comme les microbrasseries pour la bière. Maintenant, il y en a de partout, mais à l'époque, c'était rare. Donc, ils distribuaient leurs produits relativement loin. Et donc, l'idée, avoir un point de vente fixe pour faire de la vente directe et puis décliner un positionnement de restauration qu'ils avaient à l'auberge en restauration rapide. Et ce positionnement, c'était de travailler des produits frais, en majorité locale et bio, et une carte simple. Voilà, une carte simple, accessible. Ben voilà, pour proposer des produits de qualité, simples et gourmands. Ça tournait beaucoup autour des recettes grand-mère là-bas. Un des plats phares qu'on proposait, c'était le porcelet rôti au four à pain avec pommes de terre à la crème d'estragon et tomates à la provençale. Donc, produit simple, efficace, un porcelet confit au four à pain avec une cuisson lente sur une douzaine d'heures. Voilà, c'était entre autres ce qu'on proposait. Et c'était cet état d'esprit de recettes simples, recettes grand-mère, de localité, de produits respectueux de l'environnement qu'on a décliné en créant Le Moulin en 2006. Et on s'est positionné sur de la composition sur mesure de sandwichs et de salades. On a rapidement abandonné les sandwichs parce qu'avec le type de pain qu'on utilisait, c'était pas idéal. Et en fait, on a rencontré un marché. Il y avait vraiment de la demande sur du produit frais, de la nourriture simple et saine pour les actifs urbains. Et donc, la salade a très vite représenté une grosse part de notre activité. Et on s'est rendu compte quelques années plus tard qu'on avait été le premier bar à salade de Lyon sans tout à fait l'avoir fait exprès.
Comment a évolué ensuite l'entreprise ? On est arrivé à combien de salariés ?
Quand j'ai fondé Le Moulin, j'avais 21 ans. Donc, j'ai essayé d'apprendre le mieux possible tous les métiers qu'il faut apprendre à faire quand on est entrepreneur et dirigeant d'entreprise. On a eu une première phase 2006-2012 où on peut dire qu'on a fait nos armes. 2012-2014, une phase de consolidation aussi sur des périodes où on avait développé l'activité traiteur événementiel, mais plus en sous-traitance avec un acteur de vente de produits locaux du terroir à domicile qui s'appelait lesfacteurs.com à l'époque, qui a coulé, nous laissant une belle ardoise, mais aussi tout le savoir-faire qu'on avait développé en lien avec lui. On a reconsolidé nos activités et nos positionnements entre 2012 et 2014 et préparé le lancement de l'activité de livraison en charrette. Les charrettes, c'est de la livraison en point de distribution dans la rue au pied des bureaux et aujourd'hui directement dans les entreprises par notre offre cantine. Donc c'est des entreprises partenaires avec qui on travaille et dont les salariés peuvent commander chez nous et pour qui on va déposer les commandes tous les jours au sein des entreprises. Et c'est aussi des entreprises qui très souvent font appel à nous sur l'activité traiteur événementiel. Donc ça, les charrettes, on les a lancées en 2014. On était une petite dizaine à l'époque dans l'entreprise et entre 2014 et 2020, on est passé de 9 à 80 collaborateurs. On a lancé un nouveau site de production dans le 9e arrondissement à Valmy en 2018, sachant que sur les périodes d'avant, on était implanté au 49 avenue des Frères Lumière, qui est notre site historique et qui est toujours un atelier de production et une boutique, et atelier duquel part toute une flotte de véhicules en livraison. Et on a reproduit ce schéma-là à Valmy avec un gros laboratoire de production, une boutique qui, pour le coup, celle-ci peut proposer des places assises. Donc on accueille aussi des gens sur place et on a également une flotte de livraison qui va distribuer au sein des entreprises. Et notre activité événementielle traiteur a déménagé de l'avenue des Frères Lumière dans le 9e parce que le site était plus grand et plus récent. Et récemment, on l'a déménagé à Villeurbanne sur le site du Grand Plateau pour que cette activité ait un atelier de production qui soit dédié.
Et si on vous a appelé aujourd'hui, si on vous a fait venir au micro aujourd'hui, c'est pour parler de vos difficultés, parce que vous êtes en difficulté depuis récemment. Expliquez-nous un petit peu ce qui ne va plus au Moulin aujourd'hui et pourquoi vous lancez cet appel.
En fait, on peut considérer que là, on est face à notre ultime défi ou notre boss final de cette période délicate 2020-2024. Donc nous, on a été très impactés par la période Covid à deux niveaux, sur la partie événementielle traiteur, parce que cette activité a fait des on-off en fonction des différentes vagues et des mesures gouvernementales qui ont été prises. Et un deuxième niveau sur toute notre activité, plus à destination des travailleurs au sein des entreprises, avec l'évolution du marché et les obligations de télétravail. Nous, des clients qui pouvaient commander 3, 4, 5 jours chez nous par semaine, sont retrouvés à pouvoir commander 1, 2 ou 3 jours au regard de ces obligations qui sont devenues une mutation de marché. On peut considérer que notre potentiel marché a été divisé par deux ou trois quasiment au regard de l'évolution de la présence des salariés en entreprise. S'ajoute à ça l'évolution de la législation sur les titres restaurants qui ont été ouverts à d'autres usages. Ça devait être provisoire, mais c'est reconduit parce que c'est aujourd'hui un moyen gouvernemental de pallier à des sujets en lien avec le pouvoir d'achat. C'est ajouté à ça toute la question de l'inflation sur l'énergie, puis de l'inflation sur les matières premières de manière générale. On commence à être de plus en plus impacté par tous les changements climatiques qui viennent impacter progressivement les ressources les unes après les autres. Alors pour l'instant, ça reste des produits un peu isolés, mais on se souvient de la rupture énorme qu'on a eue sur la moutarde suite à des incidents climatiques, notamment au Canada. S'en sont suivis des impacts sur l'huile d'olive, sur le miel. Maintenant, c'est le cacao qui dévisse complètement. On a d'autres sujets sur tout ce qui va être viande, ce qui va être le lait. Enfin bref, ce que connaît un peu tout le monde. Mais dès qu'on travaille du produit frais et le plus possible en local et en circuit court, plus on est impacté par tous ces aléas, notamment aléas climatiques. Je sais plus si je l'ai dit, mais sur le miel, c'est pareil. La récolte du miel d'acacia a été catastrophique l'année dernière. Les cheptels d'abeilles se font décimer de plus en plus. Plein de causes à ça, mais l'usage des pesticides en fait partie et pas que. Bref, donc on est dans un monde de plus en plus instable, de plus en plus complexe. Et donc par rapport à ce boss final de la période 2020-2024, on a eu la cinquième vague fin 2021 et début 2022 aurait pu nous être fatale. À l'époque, le gouvernement, en décembre 2021, annonce des nouvelles obligations de mesures de télétravail pour les entreprises. On sait que notre chiffre d'affaires va à nouveau chuter à peu près à 50% de notre chiffre d'affaires d'avant Covid, comme à chaque vague, en fait, puisque à chaque nouvelle annonce et à chaque vague, on avait à peu près un décroché de 50% de notre chiffre d'affaires qu'on reconquérait progressivement jusqu'à ce qu'une nouvelle vague arrive au moment où on commençait à se réapprocher de notre chiffre d'affaires d'avant Covid. À ce moment-là, début 2022, on décide de lancer une opération de mobilisation de nos réseaux qu'on a appelé Super Cookie pour créer de l'activité sur la base d'une production artisanale que sont les cookies, qui est un produit qu'on sait très bien maîtriser, qui permettait de venir augmenter notre chiffre d'affaires sur la base de l'activité pour nos équipes. Donc on a mobilisé tout notre écosystème, fait une grosse campagne de com qui nous a permis à l'époque de vendre 12 000 paquets de cookies sur deux mois. C'était l'objectif qu'on s'était fixé pour créer de l'activité pour nos équipes, parce que les prises en charge du chômage partiel réduisaient de plus en plus. Nous, on a des métiers qui sont peu rémunérateurs et peu valorisés. Donc pour nous, c'était important d'être protecteur avec nos équipes et de compléter les salaires. Mais au bout de cinq vagues, on n'était plus en capacité de faire face et de financer ces mesures protectrices, ni même l'ensemble de nos charges. D'autant que les boîtes de plus de 50 salariés dans la restauration avaient des aides qui n'étaient pas structurées de la même manière que pour les plus petites structures. Les aides gouvernementales étaient très protectrices des plus petits restaurateurs, mais pour les structures de plus de 50 salariés comme nous, je pense qu'on partait du principe que les boîtes étaient plus solides, ce qui est le cas, mais les structures des aides dont on a bénéficié étaient beaucoup plus faibles et nous ont amené à endosser un déficit et une dette en lien avec notre droit à s'endetter avec les prêts garantis d'État, nous ont amené à endosser une dette qui était colossale. Et à l'époque, on s'est dit, on s'endette et puis on fera de notre mieux. Après, on verra bien. Il y avait aussi des annonces sur la façon dont ça pourrait être géré ultérieurement pour aider les entreprises à y faire face. Mais bon, on était dans des logiques de toute façon court-termistes. Le tout, c'était déjà de survivre. Bref, au moment de cette dernière vague de 2022, impossible de s'endetter plus, impossible de faire face à l'ensemble de nos charges sur la base de l'activité classique et courante qui était la nôtre. Donc on lance cette campagne, Super Cookie, 12 000 paquets en deux mois. Ça nous a permis de créer de l'activité pour suffisamment de l'activité complémentaire pour suffisamment de postes pour pouvoir tenir faire face à nos charges et à l'ensemble de nos salaires. Suite à ça, on est très vite remonté à un chiffre d'affaires supérieur à l'avant-Covid. On a aussi été aidé par le rayonnement de cette campagne qui a été fort, hein, et qui nous a permis de conquérir de nouveaux clients qui nous ont découvert dans ce cadre-là. Donc malgré un potentiel marché divisé par 2 ou 3, on a réussi très rapidement derrière à régénérer un chiffre d'affaires supérieur à l'avant-Covid. Et là, devant nous, on a quelques mois pour arriver à faire une croissance suffisante pour générer un chiffre d'affaires et une rentabilité qui nous permettent, in fine, de rembourser cette dette PGE. Il faut savoir que les prêts garantis par l'État sont une dette qui a été octroyée dans des conditions exceptionnelles et qui ont amené les banques à autoriser aux entreprises de s'endetter dans des mesures disproportionnées par rapport à un cadre classique. En temps normal, sans ces types de prêts-là, les banques ne nous auraient jamais prêté parce que notre capacité à rembourser cette dette n'était pas suffisante. Pour autant, il s'agit de sauver les entreprises à court terme et puis de voir ce qui se passerait à long terme. Donc, on nous a laissé nous endetter dans ces proportions-là et on était bien contents de pouvoir le faire. Je tape sur personne, c'est ce qui nous permettait de survivre. Mais en sortie de crise, même si on retrouve un volume supérieur à l'avant Covid, notre constat, c'est OK, on est capable aujourd'hui de faire à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a un outil de production qui est quasiment au taquet de sa capacité. Et pour pouvoir in fine rembourser cette dette, il faudrait qu'on soit capable en 2 ans de passer de 4 à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre outil de production ne nous permet pas une croissance aussi forte, qui est déjà un défi en soi, même quand on a l'outil pour le faire. Donc, on a eu dans un premier temps la nécessité d'ouvrir une procédure de conciliation pour pouvoir étaler la dette un peu plus loin, donc la repousser de 18 mois, ce qui nous a valu une réindexation sur les nouveaux taux. Ça s'est passé entre novembre 2022 et janvier 2023, le temps de tout mettre en place avec les partenaires financiers et en lien avec le tribunal de commerce. Donc on négocie dans le cadre de cette procédure de conciliation ce qu'on appelle un standstill, donc une mise en pause de notre dette pendant 18 mois, avec une hausse des taux d'intérêt à l'époque qui sont passés de 0,7 à 4%. Donc sur ces 18 mois, on ne paye que les intérêts et pas le principal du prêt. Pourquoi ? Pour avoir le temps de redémontrer notre équilibre économique après Covid, de pouvoir embarquer des investisseurs pour pouvoir financer du développement, pour pouvoir in fine faire la croissance nécessaire à pouvoir à terme rembourser la dette. Donc on était vraiment dans une équation du serpent qui se mord la queue, parce qu'on peut pas s'endetter plus, on est déjà surendetté, mais pour faire de la croissance, faut un outil de production, pour un outil de production, faut investir, pour investir, il faut du cash. Pour avoir du cash, il faut montrer patte blanche et redémontrer un équilibre. Bref, on a réussi à faire tout ça, redémontrer notre équilibre sur 2 années consécutives, de la croissance par rapport à notre chiffre d'affaires d'avant Covid, embarquer des business angels, des entrepreneurs lyonnais qui étaient intéressés par les engagements qu'on porte et l'impact qu'on a au regard des choix qu'on fait, que ce soit en termes d'insertion, en termes de développement durable, d'approvisionnement locaux, de souveraineté alimentaire, d'agriculture paysanne et j'en passe. Donc des investisseurs qui nous ont suivis sur une levée de fonds de 400 000 euros, ce qui nous a permis de financer l'émergence de ce nouveau site de production pour notre activité événementielle traiteur qui a ouvert en avril en accord tripartite avec la métropole parce que c'est une convention d'occupation temporaire. Donc on a réussi à redémontrer notre équilibre, lever des fonds, trouver un lieu d'implantation, mener à bien ce déménagement, générer de la croissance, mais on a généré une croissance de l'ordre de 15% sur l'année. Nous, on clôture notre bilan en juin, donc sur l'année 2023-2024, on génère 15% de croissance. Il aurait fallu qu'on fasse 22, et là sur l'année, donc depuis juillet 2024 et à horizon d'aujourd'hui. Si on avait fait 22% l'année précédente, il aurait fallu qu'on maintienne à 22. Comme on n'a fait que 15, il fallait qu'on passe à 30% de croissance. On n'a pas réussi à le faire. Ça, on le voit venir hein, dès le mois de mai-juin. Donc, on se prépare à possiblement ne pas être en capacité de rembourser notre dette malgré un équilibre entre nos recettes et nos dépenses. Donc, on investit, on organise la structure, on gère ce déménagement pour être en capacité de faire 30% de croissance, mais on ne fait que 15. Donc, ce n'était pas suffisant. Et on a dû ouvrir une procédure auprès du tribunal de commerce pour se mettre sous protection du tribunal, geler la dette et pouvoir in fine la réarticuler sur une durée plus longue. Au départ, on envisageait une procédure de sauvegarde, mais du fait d'avoir essayé de nous débrouiller tout seul avec nos petits bras musclés pour pouvoir faire face à la dette sans avoir besoin de personne, ben on s'est mis en risque en finançant de la croissance, puisqu'il y a toujours une part de risque quand on se structure et qu'on finance le nécessaire pour de la croissance. Donc ce qui a générer un léger déséquilibre entre nos recettes et nos dépenses, au-delà même de notre capacité à rembourser la dette. Donc quand on a ouvert cette procédure, on a fait le choix d'un redressement judiciaire et non pas d'une sauvegarde. On était à la limite entre les deux options qui dépendent de l'état des lieux, des finances, de la structure. Le redressement judiciaire est beaucoup plus contraignant pour nous. Pour autant, il permettait d'être un peu plus protecteur et un peu plus sécurisant dans la durée pour à nouveau retrouver notre équilibre et surtout venir conforter la croissance dans laquelle on était. Donc, en gros, on est un peu dans la salle du temps. On a un an de temps supplémentaire qui nous est offert grâce à cette procédure pour pouvoir générer la croissance suffisante, redémontrer cet équilibre et in fine pouvoir rembourser cette dette. Sachant que quand on est sur ce type de procédure, en sortie de procédure suite à cette période qu'on appelle la période d'observation, à partir de ce qu'on a été en mesure de faire, ce qu'on a pu démontrer à ce qu'on appelle les organes de la procédure en termes de robustesse financière, en fonction de ce qu'on a réussi à faire, on va proposer un plan de sortie et dans ce plan, il y a des mesures de réétalement de la dette. Donc la dette Covid plus notre dette historique qu'on devait rembourser sur les 4 prochaines années à partir d'avril 2024. Cette dette-là qu'on devait rembourser sur 4 ans, là, elle est gelée pour un an. Si on réussit à démontrer une solidité suffisante et que le plan est adopté, on a encore un an pendant lequel la dette reste gelée. On commence à la rembourser un an après l'adoption du plan. Et après, on peut décider de l'étaler jusqu'à 10 ans. Donc en résumé, une dette qu'on était censé rembourser en 4 ans, grâce à cette procédure, possiblement, on va la rembourser en 12 ans et non plus en 4 ans. Donc ça change quand même énormément la donne. Et là, sur cette dernière étape, cet ultime défi de la période 2020-2024, avec tout ce qui s'est passé dont je vous ai parlé, on a quand même réussi à consolider notre équilibre économique, à faire de la croissance. Il en manque un peu, il faut qu'on conforte cette croissance pour montrer patte blanche aux organes de la procédure et être sûr que ce plan de reprise et de sortie de redressement soit adopté. Et c'est pour ça qu'on a à nouveau mobilisé toute notre communauté, notre réseau de clients, etc. pour leur dire, voilà, on a encore besoin d'un coup de pouce. Alors on a bon espoir de pas lever la main tous les 3 ans pour dire, les gars, on a besoin d'un coup de main. Mais là, voilà, on a besoin d'un nouveau coup de pouce pour venir conforter cette croissance qu'on était déjà en train de faire, la consolider et s'assurer qu'on soit en capacité de montrer patte blanche auprès des organes de la procédure.
Quelles sont les solutions alors pour vous maintenant? Comment on peut vous aider?
Alors plusieurs moyens. Il y en a un qui est, on a ressorti nos cookies, on a continué à faire des cookies depuis 2022 et ils étaient encore disponibles pour l'ensemble de nos clients et on avait des belles ventes. Mais on a ressorti les cookies comme un moyen de nous soutenir pour toutes les personnes qui sont OK en capacité d'acheter un peu plus chez nous, que ce soit nos clients existants ou d'autres personnes qui sont prêtes à se mobiliser et à acheter quelques paquets. Ça donne un signal fort à court terme sur notre capacité à mobiliser notre réseau et notre communauté. Et ça nous file un coup de pouce financier certain sur de l'activité court terme. Le deuxième enjeu pour nous, c'est de continuer à développer nos partenariats en contractualisant avec des entreprises qui font appel à nous pour leurs salariés, pour que leurs salariés puissent commander chez nous leur déjeuner. Donc c'est ce qu'on appelle notre offre cantine, c'est une forme de cantine digitale. Donc les entreprises payent un abonnement mensuel pour que leurs salariés puissent bénéficier de nos services, commander sur notre site. Donc c'est non exclusif, quand les salariés veulent commander ailleurs, ils peuvent le faire, mais ils peuvent commander chez nous et on distribue les commandes directement dans les entreprises. Donc ça leur offre de la flexibilité et sur cette offre, on a besoin des entreprises pour qu'elles nous choisissent comme tiers de confiance, parce que dès lors qu'on choisit tous les engagements qui sont les nôtres, il y a beaucoup de choix qu'on fait qui sont des choix invisibles, qui se voient pas dans l'assiette. Si je te donne un exemple, là il y a encore quelques semaines, on regardait les cours pour réactualiser nos données, mais on trouvait de la patate douce d'Égypte à 1,20€ ou de la patate bio de la Drôme, donc à moins de 200 km, à 4€. Quand on choisit la patate douce bio à 4€ le kilo, ça se voit pas dans l'assiette. Certains diraient au niveau du goût, c'est peut-être meilleur. C'est pas sûr. Bio, local, ça veut pas dire que c'est meilleur en goût. Par contre, en termes d'impact environnemental, en termes de ce que ça soutient aux endroits de l'agriculture et de notre souveraineté alimentaire à moyen long terme, c'est déterminant. Mais sur un choix court terme, si moi je veux être plus compétitif sur un marché hyper concurrentiel, c'est beaucoup plus facile de choisir la patate douce d'Égypte personne ne le voit. En plus, dans nos métiers de restauration commerciale, il y a très peu d'obligations de traçabilité des produits ou de transparence. Et puis, dès lors qu'on affiche un ou deux trucs marketing, un bout de label, une démarche X ou Y, ça donne l'impression d'être vertueux, là où les réalités de l'alimentation sont des réalités extrêmement complexes, où il y a des dizaines de surcouches de choix qu'on peut faire ou ne pas faire, qui sont très impactantes sur nos coûts et donc sur le prix qu'il faut qu'on vende au final, et nous rendent moins compétitifs, et qui pour autant ont des incidences sur le long terme à l'endroit de la société et de l'environnement qui sont déterminantes, selon nous en tout cas, quand on regarde l'état de la société, l'état de l'environnement et les défis auxquels on est déjà confronté et auxquels on va être de plus en plus confronté, les choix long terme qu'on fait qui nous rendent moins compétitifs sont pour autant déterminants. Et en plus, pour une certaine part, invisible, donc très difficile à valoriser auprès du client final. C'est pour ça aussi qu'on a besoin des entreprises pour pouvoir rentrer dans le détail avec elles du niveau de choix qu'on fait en toute transparence, parce que ça se résume pas en une baseline marketing pour qu'elles nous mettent en avant comme service impactant pour leurs collaborateurs et qu'elles puissent se servir aussi de nos rapport d'impact, des évaluations de nos impacts, possiblement pour mettre en avant leur démarche RSE et leur choix. Mais à court terme, c'est pas rentable pour elles de le faire. C'est juste un choix de société pour sortir de ce triangle de l'inaction. On se dit tous, ok, oui, c'est le consommateur qui doit faire ses choix. Le consommateur dit, oui, non, mais c'est le politique qui doit choisir. Et le politique dit, mais c'est aux entreprises de faire les efforts pour s'engager là-dedans. Mais au final, tout le monde se regarde, il se passe rien, parce que forcément, à court terme, ça coûte. Mais aujourd'hui, ce qu'on ne paye pas dans nos assiettes ou ce que la législation ne permet pas d'alléger en termes de coûts pour le consommateur final, ben en fait, c'est 20 milliards d'euros d'impact de l'alimentation sur la santé, c'est du retraitement de l'eau, c'est des coûts masqués, plus ou moins masqués de moyen long terme que le contribuable paye in fine, en lien avec des choix court-termistes et délétères qui sont ceux de notre société. Et je reproche ça à personne. Hein. Moi aussi, quand je me trouve face à deux produits qui se ressemblent un peu et qu'il y en a un qui est 30% moins cher, je peux facilement prendre le raccourci parce que ce que je vois, c'est ce que j'ai sur mon compte et ce qui va peut-être me rester ou non à la fin du mois. Donc, c'est des sujets extrêmement complexes. Et aujourd'hui, nous, on porte des choix et des engagements très forts. Ça nous demande d'être extrêmement organisés, très performants, de faire de l'amélioration continue en permanence pour ne pas être trop cher sur le marché, mais pour autant on est plus cher que nos concurrents et donc on a besoin aujourd'hui des consommateurs, des entreprises qu'elles s'engagent à nos côtés pour pouvoir continuer à conforter cette croissance et être encore debout demain. Voilà, c'est les deux choix principaux, les cookies c'est le court terme, les cantines d'entreprise sur des boîtes d'une centaine de collaborateurs sur la métropole lyonnaise, c'est le deuxième levier principal et qui est un levier de plus long terme. Et après, à titre particulier, nos clients peuvent souscrire à un abonnement qu'on appelle l'abonnement compagnon, donc ils démontrent d'un engagement dans la durée et ça leur donne certains avantages et certaines remises complémentaires. Mais on n'est effectivement pas sur des positionnements marketing comme on peut retrouver dans nos métiers où on t'affiche un prix facial et on te fait des promos dans tous les coins pour avoir des occasions de communiquer, de donner l'impression de faire la bonne affaire. Parce que comme on travaille sur un positionnement le plus juste possible sur l'ensemble de nos tarifs, on a beaucoup de moins de marge de manœuvre sur des leviers, promos, marketing, etc. Pour autant, on a créé cet abonnement compagnon pour les personnes qui veulent s'engager à nos côtés sur une vision plus long terme et en contrepartie qui ont des avantages complémentaires. Dernier levier, et ça c'est plus à l'échelle de la France, on a choisi cette année de pas expédier nos cookies sur toute la France parce qu'on s'est dit écologiquement, c'est pas pertinent, il y a presque autant de frais de transport que de frais de cookies pour le client final. Donc on a ouvert un levier qu'on a appelé les cookies du cœur pour les personnes qui veulent contribuer et générer de l'activité pour nous. Elles peuvent le faire via les cookies du cœur et les cookies qui sont financés par ces personnes vont être donnés à des associations dont les bureaux du cœur, entre autres, probablement les jardins de Millepas. Enfin voilà, on est en train de définir à quelles associations on va offrir ces paquets de cookies.
Est-ce qu'à terme, on peut penser que votre modèle vertueux sera soutenable économiquement?
En fait, il l'est, il l'a toujours été. Nous, on s'est toujours débrouillé avec nos petits bras musclés pour équilibrer nos équations économiques, financer notre croissance. On n'a pas du tout fonctionné comme des startups qui vont chercher de l'hypercroissance. Nous, on vise la robustesse dans la durée par l'ancrage territorial, par l'autofinancement, par la gestion en bon père de famille. On dit certaines fois, c'est une expression un peu old school, mais c'est juste voilà, quels sont les moyens dont on dispose pour pouvoir aller plus loin et faire mieux au service de nos équipes, donc au service de nos clients et puis au service du vivant de manière générale. C'est vraiment notre boussole, elle est basée sur trois piliers, le soin du client, le soin de l'équipe et le soin du vivant. Et on prend toutes nos décisions sur ce prisme-là avec comme pivot le sens de responsabilité et du bien commun ou de l'intérêt commun. On va pas parler d'intérêt général, mais en tout cas avec cet esprit du bien commun. Et notre boussole fonctionne comme ça et toutes nos décisions sont prises avec ce prisme. Donc on s'est toujours débrouillé avec nos propres moyens pour financer notre développement, avec de l'endettement bancaire. C'est ce qu'on a fait quand on a lancé le nouveau site de Valmy. Là où on a peut-être fait une erreur, c'est que face à cette dette Covid qui était insoutenable, on a essayé quand même de réunir les conditions pour pouvoir se débrouiller tout seul sans avoir besoin d'aide. Ce qui nous a permis de beaucoup avancer et ce qu'ont réussi nos équipes est incroyable en termes de croissance, de maîtrise de nos dépenses dans des phases de développement, de croissance et d'investissement, d'embarquer des investisseurs qui connaissaient notre situation, hein, donc qui prenaient un sérieux risque, avec en plus en perspective pas du tout le potentiel d'une culbute et d'une rentabilité énorme à 5 ans, de je fais x5, x10, x20, comme ça arrive parfois dans les modèles start-up. Donc avec un investissement relativement risqué, même s'ils savent que voilà, qu'on est des gens raisonnables, sérieux et qu'on tâche des très bons gestionnaires et dirigeants, on était quand même en situation de fragilité de l'après-Covid. Ces personnes-là, malgré tout, au regard des engagements qu'on porte, nous ont suivis. Donc on s'est débrouillé pour financer ce développement en espérant qu'on arrive à aller assez vite, assez loin pour rembourser la dette tout seul. En faisant ça, on s'est mis légèrement en risque. Donc peut-être qu'on aurait dû, beaucoup plus tôt, ouvrir une procédure de sauvegarde et dire « Cette dette est devenue toxique, elle est insoutenable au regard de notre structure économique, on la gèle tout de suite et on la restructure. » On a voulu se donner les moyens d'essayer de se débrouiller tout seul. On n'a pas réussi. Aujourd'hui, on a besoin d'un coup de pouce. Mais globalement, notre activité a toujours été équilibrée et on s'est toujours débrouillé avec nos moyens pour équilibrer nos comptes, financer notre développement, payer tout le monde. Dans les choix invisibles qu'on fait, qui peuvent paraître normaux, mais qui ne le sont pas dans nos métiers, toutes les heures sont prises en compte chez nous. Elles sont toutes payées. On ne fait pas de blagues. Ça paraît normal. Mais ça n'est pas le cas de ce qui se passe majoritairement dans notre secteur d'activité, parce que c'est tellement concurrentiel, c'est tellement difficile, qu'un des moyens d'arriver à équilibrer l'équation économique des structures, c'est de faire un peu de black pour les rémunérations des dirigeantes et dirigeants, mais aussi pour une partie de l'équipe, ce qui permet à court terme d'avoir des meilleures rémunérations. Mais encore une fois, on est sur des modes de fonctionnement très court-termistes, parce que, in fine, c'est des gens qui sont dans la précarité au moment de la retraite, parce que c'est des modèles qui sont fragiles et qui ne tiennent pas, et dès lors qu'on fait du black, on est dans l'illégalité. Mais pour autant, c'est quasiment insoutenable de faire ça. Et malgré tout, ça fait 18 ans qu'on le fait, qu'on tient la route et qu'on équilibre et que systématiquement, dès qu'on peut, on va un cran plus loin. Parce que même si on est très engagé, on voit plein de trucs qu'on pourrait faire mieux, plus loin au regard des enjeux auxquels on est confronté en tant que société et qu'humanité de manière générale. Donc voilà, on lâche rien, on fait ce qu'il faut pour bien gérer les choses. Là, dans cette phase, c'est cette dernière étape de cette dette Covid devenue toxique pour laquelle on a besoin d'un coup de pouce pour la dépasser, quoi.